de méprendre un problème d'étude proprement dit, et beaucoup plus classique d'ailleurs, et beaucoup plus précis. La formule que j'ai choisie pour intituler cette exposé, c'est les principes de l'exégèse des textes historiques de la Torah, donc du Pentateuque, d'après ce que Nachmani lui-même en a dit dans son préface au commentaire de la Torah qui nous a écrit. Et au fond, ça consiste à nous poser la question suivante. Quelle est l'importance des textes historiques de la Torah? Quelle est l'importance du fait que dans la Torah, il y ait des textes historiques? Et quel doit être le principe de lecture? C'est-à-dire, quelle doit être la question que nous avons à poser à ce texte historique? Le problème est le suivant, c'est que, par nature, les textes qui racontent l'histoire nous renvoient au passé. Or, ces textes se trouvent dans la Torah, c'est-à-dire dans le livre qui est censé être le code qui doit enseigner et par conséquent informer la conduite du peuple qui reçoit ce livre, Israël, non seulement à la génération où il le reçoit, c'est-à-dire à la génération de la sortie d'Égypte, donc il y a très longtemps, mais à travers tous les siècles jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire la question est la suivante, dans Da'at HaTorah, c'est-à-dire dans la conception de la Torah elle-même, quelle est l'importance du fait d'avoir à connaître, sous une certaine forme révélée, telle qu'elle est révélée, d'avoir à connaître le récit du passé même de l'histoire d'Israël. Si vous voulez, en notre terre, avant que, comme je le dis souvent d'autre part, avant même de recevoir la loi, en tant que la loi et l'ensemble des principes qui régissent le code qui sont le code de la conduite, il y a un enseignement qui nous est donné, et non seulement avant, mais corollairement, un enseignement qui nous est donné concernant l'histoire de ce peuple qui reçoit cette loi. Je pense qu'on va améliorer l'installation pour vos camarades. Lorsque nous découvrons la lecture de la Torah, bien, si nous nous apercevons que c'est une caractéristique inattendue, à laquelle d'ailleurs on est tellement attiré qu'on ne se rend pas compte des problèmes que ça pose, la plupart du temps, c'est qu'il s'agit en premier lieu, en principe, il s'agit d'un code, c'est-à-dire d'un ensemble de principes à la limite législatifs, qui doivent la conduite. Et voilà que ce code est non seulement préfacé, mais entremêlé de tout un ensemble de récits historiques. Et par conséquent, la question est la suivante. Comment comprendre ces récits de l'histoire d'Israël? Et il s'agit, comme vous savez, de la récapitulation de l'histoire de l'humanité jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, que cette génération de l'histoire d'Israël reçoit la Torah en tant que révélation de la loi. Et comment comprendre que, et sous quelle forme comprendre, dans quel sens se comprendre? Fasse corps avec la Torah, fasse partie de la Torah et dans le monde, dans le même esprit. Et en quel sens? Ces récits de l'histoire d'Israël qui décrivent son identité font partie de la révélation de la vérité qu'il y a à connaître pour qu'Israël soit identifié comme tel d'après sa propre loi. Maintenant, en simplifiant d'un niveau, nous avons affaire à un livre dont la définition a priori devrait être un code, Torah, loi, mais voici que cette Torah implique tout un ensemble de récits qui sont des récits historiques, et nous savons que ces récits vont donc de nouveau depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à essentiellement la génération d'Israël qui a reçu ce code, cette Torah. Eh bien, cette question a été posée déjà, bien entendu, bien avant les commentateurs, bien avant le temps de Nachmani. Je vous rappellerai tout à l'heure que déjà Rashi, qui est le premier commentateur systématique, commence son commentaire en posant cette question, mais cette question se pose déjà dans le Midrash. C'est-à-dire que c'est une question qui s'attache à la typographie même de la Torah, si j'ose dire. Voici un livre qui est d'un genre apparemment hybride. Il est à la fois composé de textes historiques, alors que son propos essentiel, apparemment, est de répéter la loi. questions lors des hérétiques théologiques et philosophiques qui se posent sur ce problème. Mais je voudrais mettre en évidence essentiellement la manière dont Nachmani en a parlé. C'est-à-dire la signification qu'il va attacher à ces récits historiques en tant qu'ils sont Torah. C'est-à-dire de nous faire comprendre en quoi une certaine manière de connaître sa propre histoire fait corps et fait partie de la révélation de la vérité. Mais très, très rapidement, voici la signification de ce thème. Nous sommes habitués à l'idée que la vérité est, comment dire, a priori, absolue, indépendante des événements. La vérité de la loi est de l'ordre des principes. Comment comprendre qu'un récit qui se réfère à des événements, c'est-à-dire à des faits qui auraient pu être autrement, ou qui à la limite auraient pu ne pas être, parce qu'il est arrivé ce qui est arrivé, et c'est ça l'histoire, comment comprendre que le récit contingent puisse être intégré de façon aussi directe et immédiate à un texte, à une révélation, à une Torah, qui est elle, non pas la révélation du contingent, mais de l'absolu. Bien sûr, nous voyons que, à la limite, Nachmani va nous dire, c'est que ce qui se passe en Israël n'est pas de l'ordre du contingent. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'événements, il n'en reste pas moins que c'est un récit qui se réfère à l'événement, donc encore une fois, et non pas à la vérité, dans sa définition classique, c'est-à-dire contemplée sous forme de vérité absolue et a priori d'une histoire dans le monde. Lorsque, par exemple, le Midrash dit que la Torah, en tant que vérité, préexiste à l'histoire du monde, eh bien, on le comprend très bien pour tous ceux qui, dans la Torah, est texte législatif. S'il y a une vérité de l'ordre de la morale et qu'elle est considérée comme une vérité de l'ordre absolu, elle préexiste, bien entendu, dans cette cohérence, dans cette logique, elle préexiste à l'histoire qui doit être l'histoire d'une tentative de réalisation de cette morale. Mais comment comprendre que le récit de l'événement, de ce qui s'est passé, soit lui-même, a priori, de l'histoire qu'il raconte? Et si vous voulez, d'une autre manière, comment comprendre que les récits historiques de la Torah font partie de la Torah, étant donné que la Torah est censée être a priori des événements? Pour vous donner un exemple, prenons schématiquement ce qui s'est passé dans l'histoire d'Abraham. Et on nous dira dans ce Midrash que ce qui s'est passé dans l'histoire d'Abraham, tout se passe comme si c'est a priori de l'histoire d'Abraham lui-même. Il faudra donc nous habituer, apprendre à distinguer dans l'ordre de l'événement lui-même, ce qui est purement événementiel, c'est-à-dire à la limite de l'ordre du contingent, et ce qui est une donnée absolue et a priori même des péripéties historiques. Voilà, si vous voulez, très schématiquement décrit le genre de problème qui s'est posé dans cette question du Midrash. Pourquoi y a-t-il des textes historiques dans la Torah? Je me rappelle que certains d'entre vous l'ont remarqué au passage, que hier soir, le grand rabbin Safran a précisément cité le principe de base dont se sert Nachmani dans son exégèse des textes historiques. Je vous le rappelle en hébreu, Kolma Shira Alabot, Siman Ulavani. Et c'est un enseignement du Midrash qui dit très exactement ceci. Tout ce qui est arrivé, Ira, ça veut dire en hébreu, c'est arrivé. C'est de l'ordre événementiel. Tout ce qui est arrivé au Père, c'est un signe pour les enfants. Et nous avons l'habitude, à travers Nachmani précisément, de le comprendre de la manière suivante, c'est que la Torah nous raconte les thèmes historiques du développement, de l'épanouissement et de la gestation et de la mise au monde, c'est-à-dire de la naissance, des engendrements de l'identité d'Israël à l'échelle de personnes individuelles. Il y a une réalité humaine qui est mise en jeu dans l'histoire, et cette réalité humaine, Israël, est vécue dans tout le temps des avot, que nous traduisons par le temps des pères, est vécue chaque fois à l'échelle individuelle. C'est cette histoire des avot qui est racontée aux Bali. C'est cette histoire des pères qui est racontée aux enfants. Elle a déjà été vécue par les pères, mais à l'échelle individuelle. Si vous voulez, au niveau d'Abraham, au temps d'Abraham, Abraham est un homme et il vit une fois et uniment la vie d'Abraham. Mais pour les descendants, Abraham c'est une société. Et il y a donc une différence de nature entre le fait de vivre, de réaliser, de réussir ou d'échouer dans l'ordre de toutes les péripéties possibles, de vivre un thème historique et d'en faire la preuve, ou l'épreuve, à l'échelle de la personne individuelle, et, ou d'autre part, de le vivre à l'échelle d'une société. C'est-à-dire, tout se passe à la limite comme si Israël est une société qui est occupée en tant que groupe à revivre ce qui a été vécu en tant que personne à l'échelle des pères. Voici le principe, parmi d'autres principes qu'indique le Midrash, que Nachmani a isolé dans son commentaire. Mais avec, puisque j'ai eu, nous allons tous avoir cette semaine, j'ai juste de dire Maïmonide à la place de Nachmani. Non pas d'ailleurs que la controverse, enfin nous verrons ça, j'allais dire à la fin des temps, à la fin de la semaine, non pas que la controverse était tellement une controverse sans solution, il y a là les deux polarités, mais ce sur quoi, je veux dire, ce principe, que tout ce qui arrive au père, c'est un signe pour ce que les enfants, en tant que société, nous avons déjà nuancé, ont à vivre, Maïmonide aussi le connaît, et Maïmonide aussi l'appliquera, dans son commentaire, je veux dire, dans le passage de son œuvre où il utilise le commentaire du verset. C'est toujours un des grands regrets de la communauté juive de ne pas avoir eu cette chance d'avoir un pérouche à la Torah de Maïmonide. C'est-à-dire dans différents passages de son œuvre théologique ou talmudique, Maïmonide commente certains versets, ça nous donne un avant-goût de ce qu'aurait pu être un commentaire systématique de la Bible par Maïmonide, mais nous ne l'avons pas. Il n'a pas eu le loisir de l'écrire. En fait, la différence serait ici, c'est que pour Nachmani, eh bien, ce récit des événements déjà vécu une fois à l'échelle de la personne individuelle par les pères, par les abos, eh bien, fait corps avec la Torah en tant que vérité absolue. Elle est du même niveau, nous allons voir tout à l'heure, qui lui accorde une valeur supérieure encore à l'ensemble des versets où les mitzvot sont formulés, c'est-à-dire les articles de la loi. C'est ce chemin, si vous voulez, que nous allons essayer de faire ce soir. C'est-à-dire d'avoir à découvrir un problème, comment se fait-il qu'il y ait des textes historiques qui sont considérés comme de la même révélation que la loi elle-même, d'avoir à comprendre comment, en quoi ils ont une dignité équivalente, et finalement nous irons plus loin avec Nachmani, nous verrons par un texte de la Gemara qu'il a lui-même cité, que tout se passe comme ici, il faut accorder la valeur de Torah au Sipurim, c'est-à-dire au récit historique, de façon peut-être plus grande qu'au verset qui formule les mitzvot, c'est-à-dire les lois. Voilà, si vous voulez, le paradoxe du sujet que nous avons à étudier ce soir. Bien, est-ce que c'est bien clair? Voilà. Alors, je reprends d'abord le principe de la formule midrashique que je viens de citer. Tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrive au peuple, qui sont les principes du peuple, eh bien, c'est un signe pour les enfants. C'est-à-dire que si nous voulons nous renseigner sur notre propre identité, comprendre ce qui se passe dans l'histoire d'Israël, eh bien, il faut étudier le texte historique de la Torah, parce que c'est là qu'est raconté ce qui est arrivé au père. Donc, c'est là qu'est raconté ce qui, à l'échelle individuelle, a été vécu, et qui constitue les catégories mêmes, des problèmes historiques que Israël, en tant que descendant de ses pères, aura à vivre. Et la différence essentielle est que Israël, c'est-à-dire une société, c'est-à-dire une collectivité, c'est-à-dire un groupe nommé dans son anonymat même. Ça débarque les individus. Alors qu'au niveau des pères, eh bien, l'identité elle-même et la personne individuelle coïncident, s'identifient. Abraham, c'est tout Israël en Abraham. Isaac, c'est tout Israël en Isaac. Jacob, c'est tout Israël en Jacob. Et ils ont vécu l'identité d'Israël en tant que père. Et par la suite, c'est toute une société qui sera attachée à faire la preuve en tant que groupe de ce que l'individu a réalisé en tant que personne. Voilà, c'est à ce niveau que nous prendrons le problème, donc, au point de départ. La famille indique aussi que très, très directement, un corollaire extrêmement important. Nous l'étudions très souvent dans notre thème, c'est ceci. C'est précisément que la Torah elle-même, surtout dans son exégèse du Deutéronome, que la Torah elle-même indique que, je veux dire, le livre de la Torah indique que la loi ne pouvait être donnée à Israël en tant que loi qu'à partir du moment où Israël forme une collectivité. C'est-à-dire, tant que l'identité d'Israël est à l'échelle des individus, c'est-à-dire c'est le premier stade que nous appelons le stade des pères, bien entendu, la règle de la conduite de ces hommes, qui sont le principe du peuple d'Israël, la règle de leur conduite est celle de la Torah, mais n'est pas commune ou reçue ou dévoilée en tant que loi, je veux dire, dans la catégorie de l'obligation. C'est-à-dire, nous assistons dans le récit historique du temps des pères au récit d'hommes qui vivent d'après la Torah. Et c'est la raison, comme nous le verrons tout à l'heure plus en détail, c'est la raison pour laquelle il est important de poser de ces récits et de les étudier et de les apprendre, de les comprendre, parce que c'est là que l'on voit comment, au niveau d'une phénoménologie concrète, ce que la Torah comme loi entend par le bien et le mal, exécute et identifie. Parce que la Torah nous dira ceci est bien, ceci est mal, et bien ça reste au niveau de la loi, ça restera abstrait. Il faut identifier concrètement. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut identifier dans l'ordre de l'événement, dans l'ordre de l'expérience. Eh bien, cette identification ne nous est permise que par ce fait que dans cette même Torah, il y a le récit de la vie d'hommes qui ont concrètement vécu ces catégories du bien et du mal suivant la Torah. Savoir ce que c'est que telle ou telle vertu, eh bien, ne suffit pas de l'apprendre abstraitement, il ne suffit pas de connaître ces catégories éthiques du point de vue de l'intelligence, du point de vue d'une connaissance de la moralité. Il faut aussi identifier concrètement ce qu'est cette vertu, et nous le pouvons qu'en sachant comment les patriarches ont fait. Et vous voyez comment ce paradoxe se résout. En première découverte, il nous semblait qu'il y avait là un récit à la limite anecdotique de ce qu'ont été les premiers âges du peuple d'Israël. En réalité, il y a beaucoup plus. Il y a le récit de la manière dont les hommes qui sont porteurs de l'identité d'Israël ont vécu cette Torah en tant qu'histoire. Et c'est là que s'identifie la connaissance des catégories concrètes, cette fois, de la moralité selon la Torah. Et vous voyez avec cette différence que la catégorie de l'obligation s'attache à la loi que par rapport à une société, que par rapport à une collectivité. Je veux dire, c'est parce que nous sommes maintenant des individus d'un groupe qui, comme groupe, se nomme Israël, que cette Torah, que cette révélation de vérité nous atteint à travers la catégorie du commandement, c'est-à-dire de l'obligation, dans le sens que le moraliste donne à ce terme. C'est par le biais du fait que nous participons à l'existence d'un groupe que la valeur s'adresse à nous en tant qu'obligation. Mais à un niveau qui pour nous est maintenant irréel, je veux dire au-delà de notre réalité, à un niveau où Israël, tout Israël, c'est un homme unique, à chaque stade, et à vôtre, chacun d'entre eux étant tout seul, eh bien ce n'est pas dans la catégorie de l'obligation que la valeur se remet à la personne, elle en est son identité. Je dirais même, suis-je mérite. C'est sa manière d'être qui fait que Abraham, Isaac ou Jacob ont pratiqué la Torah. Ce n'est pas dans une distance avec une charte éthique qu'ils reçoivent sous forme d'obligation, ce qui est notre cas à nous maintenant. C'est-à-dire le biais, dans l'enseignement surtout du Deutéronome, le biais, c'est la constitution d'Israël comme peuple. C'est au moment de la constitution d'Israël comme peuple que la Torah se fait loi pour l'individu à l'intérieur de ce peuple. Dans le stade précédent, le stade des Avot, il y a coïncidence, identification, dans le sens de être identique, entre la charte de la vérité absolue, la charte morale, et d'autre part, l'événement lui-même, c'est-à-dire donc l'histoire. Vous voyez comment se dessine l'idée de cette importance des textes historiques dans la Torah. Alors, le premier point de notre étude sera très littéralement de nous renseigner à la source que cite Nachmanide lui-même pour définir le sens fort du mot de Torah comme sipur. C'est-à-dire qu'il va nous montrer où nous apprenons dans l'enseignement de la Gemara, où nous apprenons que l'essentiel de la Torah de la Torah, est dans le récit historique. Et deuxièmement, je crois que si nous en avons le temps, c'est intéressant à voir, de voir pourquoi, en tout cas sur certains points au moins, pourquoi le commentaire de Nachmanide sur ces textes est pratiquement en général, si vous voulez, bâti sur une sorte de controverse avec Rashi. Vous allez dire, remarquez cela, pour ceux qui ont étudié le commentaire de Nachmanide, c'est que voici comment il procède. Il commence par citer Rashi, et ensuite il dispute avec Rashi. Très souvent, il dit, il faut comprendre autrement que Rashi. Alors, l'étonnement, c'est que Rashi, en général, cite des textes du Midrash dans son commentaire. Et voilà comment procède l'harmonie. Il cite Rashi. Il dit, et tout ça, ce sont des paroles vraies, puisque ce sont nos maîtres qui l'ont enseigné. Mais voilà, il faut comprendre autrement que Rashi. Vous voyez, il y a une espèce de mystère dans cette sorte de dialectique. Nous essaierons tout à l'heure, donc en deuxième point, d'élucider peut-être ce qu'il sur un exemple et d'élucider un peu ce procédé de la dialectique de l'harmonie. Enfin, d'essayer de comprendre pourquoi c'est ainsi qu'il résonne. Bien, alors prenons donc la source même. C'est un commentaire de la Gemara sur le verset 12 du chapitre 24 de l'Exode. Voici d'abord ce que dit ce verset. Et Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, et je serai là-bas, et je te donnerai, alors maintenant je vous lis en hébreu, et je te donnerai, et clouvot à Eve, les tables de pierre, de la Torah, et la Torah, de la mitzvah, et la mitzvah, et les tables de pierre, vous comprenez, ça va être donc les 10 commandements, la Torah, bon, toute la Torah, la mitzvah. Mitzvah signifie en hébreu le commandement, c'est-à-dire la Torah en tant que loi. Vous voyez ici, c'est la lecture du verset. Nous voyons là plusieurs termes qui vont se compléter, la Torah et la mitzvah. Mais est-ce que la mitzvah n'est pas la Torah? Est-ce que la mitzvah n'est pas dans la Torah? Il y a là deux catégories qui apparaissent, la Torah et la mitzvah. Hachel Kadabti l'Eorota, que j'ai écrit, c'est-à-dire que j'ai mis sous forme de l'écrit, l'Eorota, pour le leur enseigner. Je reprends toutes ces catégories. Voilà ce que Dieu dit à Moïse concernant la Torah. Je te donnerai les tables de pierre, donc les 10 commandements, qui sont dessinés les principes de l'ensemble de la Torah. Et dans les 10 commandements aussi, il y a un verset historique, c'est le premier, de nature. Je suis celui qui t'a fait sortir de l'histoire. Et ensuite, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Ça, c'est la loi. Vous voyez même, au niveau de cette Torah de Torah, et les 10 commandements, il y a aussi Sipour, une définition historique, et d'autre part, loi. Alors, je te donnerai les tables de pierre, c'est les 10 commandements, et la Torah, et la mitzvah, c'est-à-dire que la mitzvah, maintenant, c'est clair, c'est la partie législative de la Torah. Alors, vous comprenez tout de suite ce que Nachman va mettre en évidence, c'est que Torah, ça veut dire le récit historique de la Torah. C'est bien clair? Asher katabti le'orotam, que j'ai mis par écrit, pour le leur enseigner. Et avant de voir la lecture de la Gemara sur ce verset, je voudrais vous faire comprendre, essayer de vous faire comprendre cette expression, cette mi-parole que j'ai écrit, que j'ai mis par écrit. Et nous avons là, en fait, une parenthèse importante, un des exemples de ce qu'on appelle le problème des anthropomorphismes. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu écrit? Ben, pourtant, c'est écrit comme ça. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence de nature entre la parole qui est révélée de Dieu alors, en tant que cette parole est au niveau oral, et en tant que cette parole est au niveau écrit. Que j'ai écrit, ça veut dire que je donne sous forme de l'écrit. Je veux dire qu'en fait, l'étonnement, et on le trouve dans d'autres textes, l'étonnement est le même, et Dieu dit, pas le fait que Dieu ait parlé. Vous voyez, c'est pas plus étonnant d'entendre que Dieu écrit, que d'entendre que Dieu parle. De toute façon, d'ailleurs, je vous dirais, c'est pas plus étonnant que d'entendre que Dieu a créé le monde. C'est-à-dire, en fait, tout ce problème des anthropomorphismes, c'est un faux problème. Alors, si Dieu existe, ben, tout le reste va avec. Enfin, quand même, pour l'entendement humain, il y a là une difficulté. Est-ce que vous comprenez? Mais, voilà, il y a quand même une différence de nature entre le contenu de cette parole, comme nous disons, ben, le contenu de cette connaissance qui passe de celui qui révèle à celui qui reçoit la révélation, une différence de nature, et le contenu de cette connaissance est sous forme de l'oral, de ce qui est dit oralement, ou sous forme de l'écrit, c'est-à-dire de ce qui est mis par écrit. Je crois, par là, si les difficultés peuvent être levées, à condition qu'on ait récupéré un minimum de sens dans cette différence. Là, il y a deux natures à la Torah. La Torah se galpe, la Torah en tant qu'elle est de la bouche, et la Torah se virta, en tant qu'elle est orale, et la Torah se virta, la Torah en tant qu'elle est par écrit. Quelle est la différence essentielle? C'est la même Torah. Tout ce qu'il y a dans la Torah orale, c'est l'explication de ce qu'il y a dans la Torah écrite. C'est plus que l'explication, c'est l'explicitation. Hein? Il faut que la bouche parle, il faut que l'écrit dise quelque chose. Si vous voulez, c'est que la formulation de la Torah par écrit est une formulation absolue, définitive et définitive, absolue. Hein? Et, chose plus importante encore, commune à tous. Alors que la formulation orale, elle est finalement, si j'ose dire, stylisée. Chaque prophète a son style. Elle est à la limite, si vous voulez, ma Torah, la Torah de chacun. Hein? Mais la Torah écrite est commune à tous. C'est surtout cela qu'il faut avoir le sens de révéler. Révéler, ça veut dire absolu dans le sens vraiment de commun à tous. Ce verset tel qu'il est écrit est valable dans sa forme pour tous. Alors que l'enseignement oral sera toujours nommé du nom de celui qui l'aura utilisé. C'est la caractéristique du Talmud. Donc tous les enseignements commencent par Rabbi Intel a dit au nom de Rabbi Intel qui a dit au nom de Rabbi Intel. Et c'est déjà la chaîne traditionnelle, c'est-à-dire donc qui finalement dit au nom de Moïse. Mais si vous voulez, à l'intérieur ou par le biais d'une formulation spécifique qui met en évidence si vous voulez, le fait que chacun est différent de chacun et que par conséquent il y a une Torah propre à chaque âme en Israël, à condition bien entendu qu'il s'agisse de la Torah de la tradition et non pas une lecture hypothétique de quelqu'un sur ce livre, mais la manière spécifique à chacun de formuler ce qu'elle reçoit de la Torah de tous. C'est-à-dire qu'il faut entendre dans la manière spécifique qu'il s'agit de la Torah de tous. Mais la différence de niveau, voyez-vous, est absolue, elle est radicale. Le verset est tel, est formulé de cette manière, avec pour objet d'être témoin pour tous d'une vérité unique. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a été conduit à mettre tout ce qui est oral par écrit, où on est conduit à mettre ce oral par écrit, c'est lorsqu'on a besoin d'une formulation témoin qui puisse servir de référence au grand nombre. Si vous voulez, à la limite, la Torah est mise par écrit parce qu'Israël est une société. Si Israël était à l'échelle de la personne individuelle, elle ne serait pas mise par écrit. Elle resterait orale. Et si vous voulez, il y a plus de sainteté, plus de kedusha dans la Torah orale que dans la Torah écrite. Parce que la Torah écrite est celle que l'on ne comprend pas, puisque c'est précisément la Torah orale qui l'a fait comprendre. Et d'ailleurs, c'est la Torah orale qui décide ce qui est Torah écrite. Est-ce que vous comprenez bien? C'est la Torah Sebalpé qui décide quels sont les versets de la Torah Shemitah. Donc, écrit, dans cette expression écrit, ça veut dire mettre par écrit, mettre sous la forme de l'écrit. Est-ce que c'est bien clair? Je veux dire, donner en tant que cela est mis sous forme écrite, et voici la différence. La formulation est absolue, parce qu'elle doit être commune. Je vais même jusqu'à inverser la formule. C'est parce qu'elle est commune qu'elle est absolue. Et il faut que nous sachions qu'il y a un consensus du peuple en tant que groupe sur la forme absolue du verset. Et c'est ce qui en fait son authentification, c'est ce qui en fait sa kedusha essentielle. Et voici ce que dit la Gemara à ce propos. C'est un enseignement de Rabbi Levi Bar Chama au nom de Rabbi Shimon ben Yakush. C'est la page 5a du traité de l'Orachim. Donc sur ce verset 14, nous sommes au chapitre 24, 22, pardon, 12 du chapitre 24. Verset 12 du chapitre 24 de l'Hébreu. Alors, Rabbi Levi Bar Chama, au nom de Rabbi Shimon ben Yakush, Maïdirtif, que signifie ce verset que nous venons de lire? Je te donnerai les tables de pierre, mais la Torah et la Torah, mais la mitzvah et la mitzvah, que Asher Kadavti Lahorotam, que j'ai donc donné sous forme de l'écrit, Asher Kadavti, comprenez mieux maintenant, les Horotas, pour le leur enseigner. Luchot, donc maintenant la Gemara qui parle, Luchot, et nous, c'est l'état d'Ibero. Les Targ, là, c'est les 10 commandements. Torah, c'est Mikra. Ce qu'on appelle, ce que le verset appelle Torah, c'est Mikra. Et Mikra, ça veut dire le texte. Mikra, le texte. Ça veut dire donc bien, la mise par écrit de la Torah, le texte. La mitzvah, et la mitzvah, le Mishnah, ça c'est la Mishnah. Alors, là, il faut définir. Mishnah, c'est la mise par écrit de la loi orale. Je dis bien loi, loi, dans le sens législatif. La Mishnah, comme vous savez, c'est donc la mise par écrit de ce qu'était la tradition orale jusqu'au temps de la destruction du deuxième temple, où il a été nécessaire de nouveau de le mettre par écrit pour les mêmes. D'une part, pour que nous disposions de formules sûres pour tous, et de formules surtout communes à tous. C'était le temps de la dispersion, et c'était aussi le temps où la mémoire de cette tradition orale risquait de disparaître, puisque comme vous le savez, en ce temps-là, les Romains avaient compris que la seule manière de pouvoir assassiner l'identité d'Israël, c'était de lui faire oublier sa Torah. Si les Romains avaient réussi avec les Juifs, ce qu'ils ont réussi avec les autres peuples, c'est-à-dire de leur faire oublier leur tradition ancienne, et bien Israël n'existerait plus. Israël se serait dénaturé. Vous savez qu'il y a eu deux peuples qui ont résisté à Rome, et ça va vous apparaître un peu énorme, ce que je vais encore vous dire là, mais enfin c'est vrai. Il y a deux peuples qui ont résisté à Rome, c'est les Gaulois et les Juifs. Finalement, vous savez que la culture romaine a triomphé de la Gaule, la tradition des druides s'est perdue, et nous savons par tradition que la tradition des druides était une tradition noachide cachère, avec qu'il s'agissait d'une religion où il n'y avait pas d'idole. Je ne sais pas si vous savez ça. Et puis ils avaient, comme disent les instituteurs de la Ligue de l'enseignement, ils avaient Yirat Shamayim, puisqu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête.
Parce que c'était urgent de disposer d'une formulation commune
parce qu'il y avait la dispersion, et parce que, et encore une fois, cette mémoire risquait de disparaître, puisque les Romains avaient décidé de massacrer systématiquement les rabbins et leurs élèves lorsqu'ils étaient pris à étudier. Parce qu'en ce temps-là, il y avait un édit romain que si on trouvait trois juifs ensemble, ceux qui ont vécu dans l'occupation, ça vous rappelle quelque chose peut-être, si on trouvait trois juifs ensemble, on les crucifiait, c'était la manière romaine de fusiller, parce que ça voulait dire évidemment que c'était un maître des élèves qui enseignait la Torah. Et donc là, la mémoire risquait de disparaître, alors on a décidé de mettre par écrit. Pour ces deux raisons essentielles, d'une part éviter la dénaturation par la dilution, par cette dispersion des écoles à travers toute la diaspora, et d'autre part, parce que si c'était pas mis par écrit, cela risquait de se perdre. Quoi risquait de se perdre? Cette formulation commune, et qui est le propre même de la mise par écrit. Eh bien, on a mis par écrit d'abord la partie halachique. Vous voyez que c'est une tolérance de mettre par écrit. Vous savez qu'on me demande souvent pourquoi je n'écris pas. Vous commencez un peu à comprendre. La Torah et la mise par écrit, ça ne va pas toujours ensemble. C'est très dangereux. Enfin, c'est très, très délicat. Mettre par écrit, ça veut dire donner une forme définitive. Alors, qui peut prétendre avoir le courage de donner une forme définitive à ce que l'on appelle Torah? C'est-à-dire, j'irai jusqu'à dire à la limite, enfin, je ne veux froisser personne, mais que c'est une entreprise extrêmement périlleuse de faire semblant de mettre par écrit de la Torah. Parce que peut-être c'est qu'on fait semblant que c'est de la Torah. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien. En tout cas, on peut effectivement mettre par écrit, c'est dans la forme dans laquelle cela est. C'est un élément qui nous avait posé une fois la question suivante. On l'avait étudié pendant des heures et des jours sur une page de Talmud. Et après, le maître nous avait demandé, et maintenant, comment vous mettriez par écrit tout ce que vous avez appris? Alors, il y en a un qui a trouvé la réponse, c'était moi. Et qui a dit, bien sûr, j'ai recopié la page comme elle est écrite. Et pourquoi je vous dis, c'était moi. C'est comme ça que je fais la vie. Alors, je réfléchis au problème. Mishnah, c'est donc de la mise par écrit de la partie législative de la tradition orale. Et ensuite, Midrash, la mise par écrit de la partie de Haggadah, c'est-à-dire de Chokhmah, de la sagesse de cette loi. Nous avons une page dans le Talmud de Jérusalem qui dit très très clairement que les halakhot ont été mises par écrit avant les Haggadot. Vous comprenez pourquoi ceux qui ont fait le Talmud, les Haggadot et Midrashim, ont une forme beaucoup plus hermétique que les halakhot. C'est-à-dire qu'à la limite, un texte de halakha, ça se lit facilement. Je disais ça dans une échelle, on regarderait de travers. Enfin, un texte de halakha, ça se lit facilement. Comme dit un texte de la Haggadah, il faut décrypter, il faut décoder, il faut, si vous voulez, comprendre pourquoi cette forme que cela est mis par écrit. Bien, apparemment, nous sommes un peu loin du sujet, mais pas du tout. Enfin, je reviens au texte de la Gemara. Donc, Torah, du verset, c'est Mikra. Mikra, c'est le texte. C'est-à-dire, le texte du Pentateuque s'appelle Mikra, s'appelle Torah. Alors, retenons tout de suite que dans ce texte, il y a premièrement les historiques, les textes historiques, et les mitzvot, et les codes, et les 600 mitzvot, oui. Mais ensuite, nous avons mitzvah. Mitzvah, nous avions traduit, c'est les versets des mitzvot. La Gemara nous dit mitzvah, c'est Mishnah. Oui. Alors, c'est Rishakish qui enseigne là. Alors, Rishakish nous dit, ne vous trompez pas, même les versets qui donnent les mitzvot dans la Torah, c'est des récits historiques. Alors, oui, que là, c'est-à-dire l'essentiel de la Torah, c'est le récit historique. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, si nous voulons entendre où est la partie législative de la Torah, il faut lire la Mishnah. Mais alors, et les versets qui instituent le mitzvot, ils font partie de Torah et non pas de mitzvah. Ça veut dire, d'emblée, la mitzvah est garantie. D'emblée, la mitzvah, c'est la Mishnah. Et alors, les versets qui donnent le mitzvot dans la Torah, eh bien, ça fait partie du Sipour, ça fait partie du Sefer Torah, ça fait partie du Mikra, du texte de la Torah, c'est-à-dire du récit historique. Si vous voulez, prenons un verset qui vous est très connu certainement depuis votre passage dans la société chrétienne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a le verset de Ve'ahavta le'ra'acha kamocha. Tu tu aimeras ton prochain comme toi-même. Admettons une tradition comme ça. Eh bien, la Torah de ce verset dans le sens de mitzvah se trouve dans la Mishnah. Et ce verset lui-même, eh bien, ça fait partie de l'histoire d'Israël. À Israël, il a été dit ceci. Maintenant, la loi de cela, eh bien, ça c'est dans la Mishnah qu'il faut le trouver. Est-ce que vous avez bien ici? Vous allez comprendre pourquoi. Bien, nous apprenons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle est la question qui se pose à nous? Si nous voulons le pratiquer, quelle est la question qui se pose à nous? Ben, comment il faut faire? Oui? Bon, comment il faut faire? C'est pas dans le verset qu'on va le trouver. Dans le verset, il y a que Moïse, au nom de Dieu, a dit à Israël, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le verset, il y a un épisode historique parlant de ce verset, parlant de ce principe. Mais la loi de ce principe, où est-elle? Elle est dans la Torah Shebaal-Pé, elle est dans la Mishnah, elle est dans Shulchan Aruch. C'est-à-dire, si je veux pratiquer ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien, c'est pas dans la Torah Shebaal-Pé que je vais apprendre comment il faut faire. En tant que mitzvah, hein, comment je vais apprendre comment il faut faire? Dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que depuis le matin où je me réveille jusqu'au soir où je m'endors, comment se conduire avec autrui de telle sorte que ce soit la relation d'amour qui soit réussie, ça c'est dans le Shulchan Aruch que je l'apprends. Je ne l'apprends pas ailleurs. Je ne l'apprends pas dans la Bible, comme disent les non-juifs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien clair? Bon. Et le Shulchan Aruch, lui, où il a appris que c'est comme ça qu'il faut faire? Il a appris dans les récits historiques de la Torah. Est-ce que c'est plus clair? Hein? Vous suivez? Pourquoi la Gemara nous dit? Mitzvah, c'est la Mishnah. Bon, Asher Kadafti, que j'ai mis par écrit, que j'ai écrit, et Lunevi, ça c'est les prophètes. Vous voyez qu'est-ce que c'est que l'écrit? C'est le fait qu'un prophète est capable de donner la forme définitive de ce qui est le contenu de la sagesse orale. Est-ce que c'est bien clair? Et comment la Gemara interprète l'expression que j'ai mis par écrit, ça c'est les prophètes. Et Moïse a pu donner la Torah par écrit, parce que Moïse n'était pas seulement Moïse, le sage d'Israël, parce que Moïse était aussi prophète. Et vous voyez qu'à la limite, seul quelqu'un qui est doué de prophétie peut mettre la Mishnah par écrit. Comme nous sommes modestes, nous disons que c'était le roi Hakodesh. Mais c'est une voie, hein? C'est-à-dire si Rabbeinu Akadosh a pu mettre la Mishnah par écrit, c'est parce qu'il est inspiré à la manière des prophètes. De quelle nature de l'inspiration, celle qui permet de donner la forme absolue, c'est-à-dire commune à tous. C'est ça, sur ce point, la force de la prophétie. Lorsque nous disons, par exemple, que la Gemara est écrite par le roi Hakodesh, c'est bien ce que nous voulons dire. Est-ce que c'est bien clair? Ça veut dire que c'est la force de la prophétie qui peut donner la forme absolue de la forme unique. Est-ce que c'est bien clair? Si vous voulez, une toute petite parenthèse, vous connaissez certainement cette phrase, « Haham Adi Minabi », que le sage est plus fort que le prophète. Vous avez peut-être entendu parler de ça, non? Non? Hacham a dit finalement. Non, ben, vous allez apprendre. La Gemara dit très souvent, Hacham, le sage, celui qui comprend, et a dit finalement, le plus fort que le prophète. Bien, de quoi s'agit-il? C'est la Torah. Et pourtant, la Torah nous est donnée par les prophètes. Mais ça veut dire ceci. C'est que le contenu du verset, c'est par la Chokhma qu'on le comprend, c'est en tant que Hacham. C'est la forme qui est donnée par la Nebua. C'est-à-dire, je peux disposer de la forme du verset, dont j'ai lu le prophète, et ne pas du tout savoir ce qu'ils ont dit. Le contenu, il faut que je l'entende, identifié par un haram. C'est-à-dire, la modalité du haram est supérieure à celle du prophète, parce que c'est le contenu du verset. Alors que la prophétie, c'est la forme. Inversement, ce verset n'est ce qu'il est que parce que le prophète, en tant que tel, lui a donné cette forme absolue. C'est Moïse en tant que prophète qui reçoit la forme de la mise par écrit, c'est Moïse en tant que sage qui reçoit le contenu de ce qui a été mis par écrit. Donc, Asher Katafti et les Nébim, ça c'est les prophètes, Nébim Urtuim, et les prophètes, les autres écrits mis par écrit du Tanakh, Véorotam, Zegemara, pour leur enseigner, ça c'est la Gemara. La Gemara, c'est-à-dire le Talmud. Est-ce que c'est bien clair? Et vous voyez que le verset lui-même résout notre difficulté. Je vous ai dit que toujours la mise par écrit, c'est une tolérance. C'est parce qu'il y a des raisons qui font que l'on est obligé de mettre par écrit alors qu'on permet de mettre par écrit. Mais que l'essentiel, le principe de la Torah, c'est d'être oral. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a cette espèce de légende
qui nous vient d'une formule de Achad Aram, qui était un des auteurs masculins de la fin du siècle dernier. Vous avez certainement entendu parler d'Achad Aram, hein? Alors c'est Achad Aram qui a lancé cette formule qu'Israël est le peuple du livre. C'est à quel point d'ailleurs les Juifs se félicitent de cette formule. Nous sommes le peuple des libraires. Enfin, nous sommes le peuple du livre. Et enfin, du livre par excellence, etc. etc. Et il faut bien savoir que c'est faux. Hein? Israël n'est pas du tout le peuple de l'écriture. Israël est le peuple de la révélation. Israël est le peuple de ce qu'il y a dans ce livre. Israël n'est pas un peuple qui écrit des livres. Israël est un peuple qui sait faire lire les livres. Vous comprenez la différence. Israël est le peuple de la Torah. Donc de la Torah, c'est vers le P. Alors il arrive que la Torah doit être mise par écrit. Mais encore une fois, ce sont des occurrences qui ont fait qu'il a fallu mettre par écrit. Est-ce que vous comprenez bien cela, hein? Et donc je vous dis à quel point il peut y avoir des légendes.